parce que Dieu est vivant et il agit encore aujourd'hui dans la vie de ceux qui ont la simplicité ou l'audace de mettre en lui leur foi, leur confiance. Et voyez-vous, en effet, tout ce que vous venez d'entendre est le résultat de l'expérimentation de ce que Dieu dit dans ce livre merveilleux qu'est la Bible, la parole de Dieu. Et cette Bible, eh bien, je voudrais l'ouvrir pour vous cet après-midi et réfléchir quelques instants sur une phrase qui nous est présentée là dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 10. L'Ecclésiaste, ça veut dire le prédicateur. Et cet homme qui avait pour nom l'Ecclésiaste n'était autre que le roi Salomon, un homme qui a laissé des traces dans l'histoire pour la sagesse proverbiale qui était la sienne et puis aussi pour le faste de sa cour. Mais c'est un homme qui a aussi été inspiré par Dieu dans certaines périodes particulières de son existence et qui nous livre le produit, le résultat de cette inspiration divine. Et voici ce qu'il dit donc dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait, Dieu, il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Amen. La pensée de l'éternité. Alors peut-être d'autres traductions vous disent le sens de la durée. Ce qui est équivalent, parce que justement, l'éternité, c'est ce qui dure toujours et qui ne finit jamais. Et c'est vrai que l'éternité est une notion qui nous concerne, une réalité. Je dirais que nous avons, chacun d'entre nous, rendez-vous avec l'éternité. Et la question la plus cruciale qui soit, celle en tout cas, chers amis, que vous devez ou vous devriez vous poser et à laquelle vous devez pouvoir répondre est celle-ci, où passerai-je l'éternité? Où passerai-je l'éternité? Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas en la matière vous contenter d'éluder cette question, refusant d'y réfléchir, disant on verra bien, ni de demeurer non plus dans l'ignorance en disant « je ne sais pas de quoi l'éternité sera faite pour moi ». Ce serait trop lourd de conséquences que d'évacuer cette idée, d'abord parce que l'éternité est une réalité, je viens de le dire, nous avons, chacun d'entre nous, rendez-vous avec l'éternité. Voyez-vous, l'Écriture tout entière nous montre que, non, décidément, tout ne s'arrête pas lors de notre décès. C'est vrai que vous et moi, un jour, nous allons mourir. Ce n'est pas une découverte, c'est une certitude. Ce n'est pas une éventualité, c'est un fait démontré dans de multiples occasions. Et l'Écriture dit que la poussière retournera à la poussière, mais l'Écriture, la Bible dit que aussi l'Esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Vous êtes un être, je suis un être fait de chair, de sang et d'eau, une créature biologique, si vous voulez, organique, vous avez un corps, mais vous êtes plus que cela. Vous êtes aussi un être spirituel, et quand Dieu vous a créé, car c'est Dieu qui vous a créé, il vous a donné un esprit, et cet esprit survivra à votre corps, certainement. Il faut être lucide à cet égard, voyez. Je répète cette phrase de la parole de Dieu, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, après notre décès, l'Écriture, la Bible nous montre que nous passerons l'éternité dans l'un des deux lieux où elle se déroulera. Le ciel ou l'enfer. Deux lieux et deux lieux seulement. Car l'Écriture, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de lieu intermédiaire. Je sais que certains systèmes religieux ont imaginé, créé de toutes pièces cette idée que, eh bien, si on n'est pas assez bon pour aller au ciel, mais si on n'est pas assez mauvais pour aller en enfer, on ira dans un endroit intermédiaire où là, on expiera nos fautes, on purgera les erreurs que nous aurons commises ici-bas, et qu'après un certain temps, peut-être, alors nous aurons la chance de partir du bon côté. Mais la Bible ne nous présente pas les choses de cette manière. Elle nous dit, elle nous avertit que dans l'éternité, il y a deux endroits, le ciel ou l'enfer, et que nous serons obligatoirement dans l'un ou dans l'autre. Et donc la question est la suivante, chers amis, chacun d'entre nous, nous devons nous la poser, dans lequel de ces deux lieux irai-je ? Dans lequel de ces deux endroits irai-je ? Et pour aller dans le meilleur de ces deux endroits, le ciel en l'occurrence, le paradis, le royaume de Dieu, que faut-il faire ? Que faut-il que je fasse ? Telle fut d'ailleurs la question qu'un jour, eh bien, dans la Bible, un homme confronté à la mort a posé. Vous voyez ? Parce que justement, quand on est confronté de près à la mort, ça amène des questions qu'on ne s'est jamais posées jusqu'à présent. Peut-être au milieu de nous, certains dans ces circonstances particulières, vous avez été tout près de la mort. Peut-être que vous avez senti qu'il s'en est fallu d'un cheveu. Et je pense que dans ces moments particuliers de l'existence, vous avez remarqué que nos réflexions prennent une tournure particulière. Donc cet homme qui se trouvait confronté à la réalité de la mort, il y a échappé par la grâce de Dieu, mais il s'en est fallu de peu, a posé cette question, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? C'est-à-dire, que faut-il que je fasse pour aller au ciel ? Eh bien, voyez, cette question que nous devons, que nous devrions nous poser, Dieu qui nous aime, nous en donne la réponse. Parce que, comme nous l'avons entendu dans ces chants, dans ces témoignages, Dieu ne veut pas nous laisser dans la confusion. Il nous aime, il veut nous sauver. Et nous aimant, il nous indique dans sa parole le moyen pour être assuré de passer l'éternité dans le meilleur de ces deux endroits pour aller au ciel. Et ce moyen pour être sauvé, pour aller au ciel, c'est la foi. On a l'habitude de dire que c'est la foi qui sauve, certes. Mais pas la foi dans n'importe quoi, chers amis. Pas la foi dans n'importe qui. Certains, parfois, ont pu penser que du moment qu'on avait la foi, que l'on croit ceci ou que l'on croit autre chose, n'avait guère d'importance. Non, mes amis, la foi doit avoir un objectif précis. Elle doit se diriger dans la bonne direction. Et la foi dont nous parlons cet après-midi, la foi qui sauve, la foi qui donne l'espérance du royaume des cieux, la foi qui remplit notre cœur d'une certitude, c'est la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Toute la Bible est pleine de ces affirmations qui nous montrent que si nous mettons notre foi en Jésus, eh bien nous serons sauvés, nous serons sauvés. Et cet homme donc, dont je vous parlais il y a un instant, qui posait cette question, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Il lui fut répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà, c'est aussi simple que cela. Voyez-vous, ces amis qui nous ont rendu témoignage, chacun a eu une expérience, un parcours de vie différent, n'est-ce pas ? Ça a été plus ou moins facile. Ils ont rencontré le Seigneur à un âge plus ou moins avancé, une enfant, un adolescent, un jeune homme tout au moins, un homme d'âge mûr, mais ils en sont tous arrivés au même stade de réflexion, j'ai besoin de Jésus. Et il n'y a que lui qui puisse me sauver, qui puisse me garantir d'une manière certaine la possibilité d'aller le rejoindre un jour dans le ciel. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Un autre texte de l'Écriture dit que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Vous voyez ? Jésus-Christ est venu dans le monde non pas pour s'intéresser à des gens sans reproche, à des gens, eh bien, ma foi, qui avaient une vertu morale hors du commun. Non, il est venu parce que il a aimé les pécheurs. Et ça tombe bien, parce que, voyez-vous, l'Écriture, la Bible nous montre que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous offensé Dieu. Notre ami Noël nous a parlé, n'est-ce pas, des dérives dans lesquelles il s'est laissé entraîner, fourvoyer, le vol, la violence, etc. Mais il n'est pas besoin d'en avoir fait tant que ça pour être un pécheur. Et notre amie Brigitte nous a dit que, eh bien, tout enfant, déjà, elle a réalisé que c'est vrai, elle avait besoin de la grâce, de la miséricorde de Dieu, parce qu'elle aussi, elle avait péché, elle avait offensé Dieu. C'est le fait de chacun d'entre nous. Mais Christ est mort sur la croix pour nos péchés, et il s'offre en quelque sorte à notre foi pour que, mettant notre espérance en lui, nous recevions de sa part le pardon dont nous avons besoin. L'Écriture dit « Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Vous voyez, nous vivons dans une culture, en tout cas dans notre pays de France, même si parfois certains veulent le nier, je dirais une culture judéo-chrétienne, et on a tellement formaté les choses en matière de religion que quand on parle de prière, les gens pensent qu'il faut absolument réciter à Dieu des formules incantatoires particulières. Mais ce n'est pas ça, mes amis, la prière. Excusez-moi de vous le dire si crûment, si franchement, mais si vous pensez que eh bien, prier consiste à débiter des mots pieux que d'autres nous ont mis dans notre bouche, vous n'y avez rien compris. La prière, c'est le cœur qui doit parler. C'est le cœur qui doit parler. Et invoquer le nom de Jésus, c'est faire appel à lui en mettant en quelque sorte à nu la réalité de notre être intérieur et de lui dire, Seigneur, regarde les dégâts. Regarde tout ce qu'il y a eu de négatif, de mauvais, de coupable dans ma vie. Tout ce que tu appelles péché, je reconnais que je l'ai commis. Seigneur, je viens à toi pour que tu m'accordes ta faveur et tu me pardonnes. Et tu me pardonnes puisque tu me dis dans la Bible, qui est ta parole, que tu as donné ta vie sur la croix justement pour que par ton sacrifice, mes péchés sont pardonnés. Vous savez, le pardon, ça ne se mérite pas, ça se reçoit. Comme une grâce, comme un cadeau. Tenez, voilà encore une dérive de la religion. On nous a souvent inculqué l'idée que, eh bien, pour être agréable à Dieu, il faut en faire autant et plus. Et que si je multiplie les bonnes œuvres, si je me plie à certains rites, à certains sacrements que l'on m'a plus ou moins imposés, si je récite certaines formules, si quelque ecclésiastique accomplit à mon égard des gestes particuliers, alors je plairai à Dieu, et je lui serai agréable et il va m'envoyer sa bénédiction en retour. Non, mes amis, Dieu n'attend rien de notre foi. C'est lui qui a tout fait pour nous. Il attend simplement qu'en lui nous mettions notre espérance, notre confiance. Et voyez-vous, lorsque nous mettons notre foi, une foi vivante dans la personne du Christ, alors, et cela, nos amis nous en ont rendu témoignage également, une certitude, une pleine assurance vient dans notre vie. Car ce que Dieu nous offre, ce n'est pas un vague espoir. Peut-être irai-je un jour au ciel si Dieu est miséricordieux suffisamment à mon égard. Peut-être m'accueillera-t-il. Non, ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile offre une certitude. Offre une conviction. L'apôtre Jean, l'un des plus proches disciples de Jésus, a rédigé un texte dans la Bible dans lequel il dit « Je vous écris, petits enfants, c'est un terme affectueux, il s'adresse aux croyants, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Afin que vous sachiez, que vous soyez convaincus. Je suis convaincu d'avoir la vie éternelle. » Peut-être me direz-vous, mais monsieur, vous êtes bien prétentieux, qu'est-ce que c'est qui vous permet d'affirmer une telle chose? Est-ce votre fonction de pasteur qui vous permet de dire, eh bien, je suis au-dessus du lot, Dieu m'ouvrira tout grand les portes du paradis? Non, ça n'est pas de la prétention. On ne peut rien prétendre lorsque ce qu'on a, on l'a reçu non pas en conséquence de nos mérites, mais simplement par les mérites de Jésus. Nous n'avons pas acquis notre salut. Nous ne l'avons pas gagné de notre lutte. Nous ne l'avons pas conquis par des efforts extraordinaires. Nous l'avons reçu gratuitement. C'est une grâce. Il n'y a aucun mérite à recevoir un cadeau, que je sache. Lorsque, à Noël ou dans une autre occasion, lors de votre anniversaire, on vous offre un cadeau, vous n'allez pas dire, eh bien, je suis quelqu'un de formidable. Regardez, j'ai reçu un cadeau. Non, vous l'avez reçu. Et vous n'y êtes pour rien, celui qui a mérité. C'est celui qui a payé le cadeau. C'est celui qui a eu suffisamment de sympathie, d'affection pour vous l'offrir. Eh bien, voyez-vous, le salut, c'est ça. C'est une grâce. C'est un cadeau. Ça ne se mérite pas. Ça se reçoit simplement par la foi. Vous savez, la vraie foi est inséparable aussi d'autre chose. La vraie foi est inséparable de la repentance. Dans l'évangile de Marc, il est dit que lors de ses premières prédications, lorsque Jésus a débuté, lorsqu'il a inauguré son ministère terrestre, il parcourait les villes et les villages du pays d'Israël en disant « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Croyez à la bonne nouvelle. La foi, certes, je viens de vous en dire quelques mots, mais la repentance aussi. Et c'est une nécessité qui nous concerne tous, voyez. L'apôtre Paul nous rend témoignage, les Écritures, à prêcher l'Évangile un jour dans la ville d'Athènes. Et il y avait là un auditoire certainement bien plus nombreux que celui que nous formons cet après-midi. Et devant tous ces hommes, ces femmes certainement, il y avait là des philosophes, des épicuriens, des stoïciens, des gens de diverses écoles philosophiques et religieuses. Il s'est écrié, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de se repentir ? Se repentir, c'est très simple. C'est plaider coupable. C'est reconnaître ce que je suis. On raconte l'histoire d'un médecin qui s'occupait d'alcooliques, de gens qui étaient tombés dans cette addiction. Alors, il faisait défiler ses patients dans son cabinet et il y avait un grand miroir. Et il posait la question à ses patients, « Monsieur ou madame, qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir ?» Alors les gens lui disaient, « Mais dans ce miroir, je me vois. » La plupart répondaient comme ça. « Bon, c'est bien. » Et puis, comme ça, plusieurs sont passés. Et puis, il est arrivé un et il lui a posé la même question. « Monsieur, que voyez-vous dans ce miroir ?» Et cet homme a regardé sa propre image et il a commencé à dire dans ce miroir, « Je vois un homme que l'alcool a dégradé. Je vois un homme qui a ruiné sa vie de famille. Dans ce miroir, je vois la triste vie d'un individu qui a rendu malheureux sa femme. » Ses enfants, dans ce miroir, je me vois tel que je suis. Et le médecin de dire, pour celui-là, il y a de l'espoir. Parce qu'il reconnaît qui il est. Je ne suis pas en train de vous traiter d'alcoolique cet après-midi. Vous savez, le miroir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, tu es cet homme-là. Tu es cette femme-là. Même si tu peux essayer de t'abriter derrière ta moralité en disant « Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé », eh bien ouvre les yeux sur ta condition véritable. Ce soir, cet après-midi, laisse parler ton cœur en toute franchise, en toute honnêteté et laisse ton cœur te dire que toi aussi tu as offensé Dieu, tu as péché, tu es cet homme-là, tu es cette femme-là. Et la réalité de ton péché, eh bien confesse-le, avoue-le à Dieu, plaide coupable devant lui. Et avec toute la simplicité dont tu peux être capable, ami, demande-lui simplement pardon et il te fera grâce. Comme c'est simple avec Dieu, vous ne trouvez pas ? Je vous assure que c'est comme ça. Le fardeau peut être le remords de vos fautes qui pèse sur votre cœur, qui vous écrase même, parce que pour certains ça peut arriver, ce fardeau peut tomber, vous pouvez en être libéré. Si simplement, du fond du cœur, non pas en répétant ça comme un perroquet, mais du fond du cœur, vous vous adressez à lui seul en disant, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Il fera grâce. Il pardonnera et il vous sera. Et il vous bénira. Maintenant, nous arrivons au terme de notre réflexion. Permettez-moi de vous poser cette double question à laquelle il vous appartient de répondre dans votre fort intérieur. Nous avons dit que pour aller du bon côté dans l'éternité, il fallait croire en Jésus. Croyez-vous en Jésus ? Croyez-vous en Jésus ? Et nous avons dit aussi que pour aller du bon côté, il fallait s'être repenti. Et si vous ne l'avez pas fait, nous vous invitons à le faire. Mais vous savez, la foi en Jésus, ce n'est pas seulement croire à son existence. Ça, c'est un fait historique. Jésus a vécu. Mais croire en Jésus, eh bien, c'est comprendre le sens de sa mort et de sa résurrection. L'Écriture, la Bible dit que Christ est mort pour nos péchés, pour les effacer, pour les couvrir, pour les neutraliser, pour les purifier, pour les pardonner. Et il est ressuscité pour être notre avocat auprès du Père et pour obtenir en notre faveur, de la part du Père donc, le pardon et la miséricorde dont nous avons besoin. Et cet après-midi, permettez-moi que, en quelque sorte, je vous lance ce défi. Estimez-vous Jésus suffisamment digne de confiance pour lui donner votre vie? Je répète, estimez-vous Jésus suffisamment digne de confiance pour lui donner votre vie tout entière? C'est-à-dire prendre la décision irrévocable de vous soumettre à lui, de l'aimer, de le servir, de lui obéir, de faire sa volonté avec son aide, de faire de lui en fait votre Seigneur, votre chef, votre maître. Êtes-vous prêt à prendre cette décision? Il ne s'agit pas d'acquiescer simplement à quelques vérités de l'Évangile. Il ne s'agit pas que vous sortiez de ce lieu en disant « Bien, ma foi, dans ce qu'a dit cet homme, il y a à en prendre et à en laisser, mais il y a quelque chose dont je peux tirer parti, ici ou là. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais ici ou là, ça tient la route. » Ok, non, mes amis, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de lui. Lui qui, cet après-midi, se propose à vous et vous dit « Tel que tu es, avec ta misère, avec tes erreurs, avec tes fautes, avec ta propre faillite, je parle là de faillite morale et spirituelle, bien sûr, je suis prêt à t'accueillir, de donner une autre chance, de redonner la possibilité de repartir. Mais c'est vrai, à zéro dans la vie, vous savez, on peut repartir à zéro avec Jésus à tout âge, alléluia. Hein? Ne dites pas, j'ai été trop loin, trop de temps à passer, ma vie est bien suffisamment entamée, pour moi, ce n'est pas possible. Oh, mes amis, quel que soit votre âge, Dieu est prêt à vous accueillir comme vous êtes. L'affaire de vous, nous l'avons entendu dans ces témoignages. Un homme nouveau, une femme nouvelle. Mais il faut se soumettre à lui. Je t'apporte ma vie, ma propre vie. Je te la donne, Seigneur. J'avais une quinzaine d'années lorsque j'ai fait ce choix. Voyez, à 15 ans, on a la vie devant soi. Et j'ai compris que deux styles de vie s'offraient à moi. Avec lui ou sans lui. C'est comme si le Seigneur m'avait dit ça. Je n'ai pas entendu de voix, ce n'est pas du mysticisme. Je le traduis de la manière suivante. C'est comme si Dieu me disait, parce que moi aussi j'avais été élevé dans la connaissance de l'Évangile depuis ma plus tendre enfance, comme si Dieu me disait, maintenant mon gars, t'en sais suffisamment. Tu en sais assez. Tu sais ce que tu devrais faire. Il faut que tu choisisses. Avec moi, en quelque sorte, me disait le Seigneur, ou sans moi, choisis. J'ai choisi, et je ne le regrette pas. Et si ce choix, je devais le refaire aujourd'hui, je le referais encore, et encore, et encore, parce que ce que le Seigneur offre, c'est le meilleur. Alléluia. Attention, ça n'est pas le plus facile. Et ne pensez pas que, eh bien, il y a, comment dire, cette espèce de marché que le Seigneur nous proposerait, nous disant, mais si tu me donnes ta vie, tout ira bien. Plus de problèmes, c'est pas vrai. L'Écriture parle d'épreuves, de combats, de difficultés, de tentations qui sont le lot de tous les hommes, mais encore plus peut-être le lot des chrétiens. Mais la différence, c'est que dans ces épreuves, ces combats de l'existence, il est là, avec nous. Et vous savez, ça change tout. Ça change tout. Je peux vous assurer que quand on passe par des difficultés, Dieu sait que j'y suis passé souvent, mais que la présence du Seigneur est à nos côtés, c'est une force extraordinaire. On n'est plus seul. Le monde se marre de solitude, c'est pas vrai ? Excusez-moi l'expression, je vais l'employer. Les gens crèvent de solitude. Même des fois ceux qui ont une famille, une épouse, un mari, des enfants, au fond d'eux-mêmes, ils se sentent seuls, désespérément seuls, pour affronter leurs problèmes. Ne soyez plus, ne restez plus seuls. Acceptez Jésus dans votre vie et il vous fera grâce. Que son nom soit béni. Prions-le quelques instants. Notre Père et notre Dieu.